Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique en ce lundi matin est Nathanaël Schmitt. Il est président des Jeunes Démocrates de Bretagne et il est venu jusqu'au micro de Bretagne 5 depuis Rennes pour commenter l'actualité et l'actualité politique. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commenter l'actualité, disais-je, actualité internationale très importante en ce moment avec un grand bouleversement au Proche-Orient, avec cette guerre entre Israël et l'Iran et avec un nouvel intervenant, et pas n'importe lequel, les États-Unis, qui a pilonné les installations nucléaires iraniennes ce week-end. On va vers un grand basculement du monde, en tout cas de l'organisation du monde, de la géopolitique. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle, y compris pour les Iraniens, ou est-ce que c'est pas forcément une bonne nouvelle ?
Bon, moi je suis pas le plus grand des atlantistes, hein, donc ça me pose pas de problème de questionner quand je suis pas d'accord avec les décisions des Américains. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que c'est une très bonne nouvelle si le programme d'enrichissement du nucléaire iranien est mis à terre. Bon, si c'est le cas, c'est très bien, on s'en réjouit, pas de souci. Après, aujourd'hui, c'est la question du droit international, comme d'habitude, qui va poser problème, en tout cas du côté américain. Si on laisse de côté le fait que Donald Trump, vis-à-vis du Congrès, lui-même a ses petits problèmes, apparemment.
Il a des petits arrangements, faut bien
voilà.
le dire.
Et bah, du côté du droit international, c'est quand même plus compliqué, parce que une intervention militaire, une intervention armée, ne peut normalement avoir lieu qu'en cas d'agression et donc de légitime défense. Bon, là, c'est pas le cas pour les États-Unis. Ils reviennent un peu dans le rôle de gendarme du monde qu'ils avaient un peu quitté quand même ces dernières années, notamment sous Trump, hein, en se retirant d'Afghanistan, etc. Le but de ces bombardements, est-ce que c'est de renverser le régime ? Ils ont dit que non, en théorie. Le problème, c'est que renverser le régime, on a vu ce qui s'était passé en Irak, en Libye, etc. On sait que les ingérences états-uniennes, européennes, ça peut vraiment mal tourner. Et un autre grand principe du droit international, c'est la capacité des peuples à s'autodéterminer.
Avec, évidemment, si le régime devait tomber en Iran, la possibilité du peuple de faire tomber ce régime, on peut imaginer que dans le calcul de Donald Trump, il y a eu ce petit, permettez-moi le terme, il est peut-être très mal choisi, mais ce petit coup de pouce pour inviter implicitement le peuple à changer de régime.
Ouais, je pense qu'en tout cas, ils peuvent s'emparer de, disons, de la fragilisation du régime. On a vu que les chefs d'état-major, le chef d'état-major puis celui qui l'avait remplacé ont tous les deux été éliminés par les Américains ou par les Israéliens, je ne sais plus.
Je crois que c'est Israël.
Ouais, voilà. Et donc, c'est sûr que ça crée une ouverture, on va dire. Mais je pense que clairement, ça doit venir des Iraniens, du peuple. Et on le sait qu'il y a déjà des mouvements Femmes, Vie, Liberté. Il y a plusieurs mouvements déjà qui sont en marche et qui juste ne sont pas en accord avec ce que le régime fait, parce que qu'on soit clair, hein, le régime des Mollahs, c'est un régime autoritaire, cruel, ils ont des prisonniers politiques, ils font des atrocités, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, même dans la sphère politique française très divisée. Je pense que ça serait une bonne nouvelle qui tombe. Après, encore une fois, il faut que ce soit, je pense, par les Iraniens, parce que si c'est par les Américains, par les Européens, ça va vraiment poser problème. Et je pense que c'est aussi pour ça que tous les dirigeants européens sont un peu mal à l'aise avec ce qui s'est passé. Personne ne sait si on doit approuver et condamner les bombardements, parce qu'on se dit problème de droit international, problème d'instabilité et aussi problème potentiellement intérieur pour nos pays.
On a entendu Emmanuel Macron s'exprimer hier soir, quelques minutes avant un nouveau conseil de défense. Emmanuel Macron, qui là aussi n'a pas condamné explicitement les frappes américaines, mais a invité, là encore, à avoir une démarche diplomatique, à essayer de tenter ce qui est possible, la dernière chance diplomatique. On a vu aussi que l'Europe était quand même, en tout cas l'Union européenne, mise à l'écart, ni Netanyahou de son côté, ni Trump du sien, n'ont averti, n'ont prévenu l'Europe de ces frappes possibles.
Oui, de toute façon, je pense que c'est une position qui n'est pas faible et qui même est puissante de vouloir la diplomatie avant tout. On sait que ça marche. Les accords de Vienne de 2015 sur le nucléaire iranien marchaient très bien. avant que les États-Unis se retirent unilatéralement. Il y avait le programme nucléaire avait été largement réduit. Les doses d'uranium qui étaient détenues par l'Iran ont baissé. Ça a été prouvé, ça a été montré. C'est pour ça que les sanctions économiques ont pu être levées. Et c'était une très bonne nouvelle.
Alors même s'il y avait quelques trous dans la raquette, on a entendu l'AIEA s'exprimer en disant que voilà, il y avait ce qu'on avait montré au contrôleur de l'AIEA et ce qui n'avait peut-être pas forcément été montré.
Bien sûr, il ne faut pas être naïf. D'ailleurs, avec la situation entre Israël et le Hamas, on ne sait pas comment ça serait passé, ça ne serait probablement pas si bien passé que ça. Donc effectivement, il y a quelque chose à revoir en termes diplomatiques. Aujourd'hui, l'Europe effectivement doit se faire entendre. Simplement, est-ce que c'est mauvais qu'on n'ait pas été consulté? Moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois, c'est des choses qui ne rentrent pas dans le cadre du droit international. De toute façon, Donald Trump savait que les Européens ne seraient pas dans une posture de soutien explicite, de soutien clair face à cette démarche. Donc, ça me paraît normal.
D'un autre côté, il y a aussi des inquiétudes. Emmanuel Macron n'en a pas parlé directement. On a plutôt entendu le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est exprimé chez nos confrères d'LCI en disant que voilà, il allait falloir renforcer le plan Vigipirate, qui est déjà très renforcé en France, car on craint éventuellement des actions terroristes, il faut bien prononcer le mot, sur le territoire français. Et il a d'ailleurs, à cette occasion, Bruno Retailleau, évoqué cet adolescent de 17 ans qui a été arrêté dans la Sarthe et qui prévoyait des attentats contre des lieux festifs, contre des sex shops, voilà, c'est le terme qui a été employé également, ou des lieux de culte encore. Voilà, la menace terroriste est réelle aujourd'hui. Est-ce qu'il faut là aussi s'en inquiéter et se dire attention, ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée peut avoir des incidences ici?
Je pense qu'il y a deux incidences principales. Vous l'avez dit, il y a la première, c'est le risque d'attentat terroriste. Et effectivement, on est repassé à nouveau en mode urgence attentat sur le niveau de plan Vigipirate. Donc, c'est vrai que ça montre l'urgence de la situation. Effectivement, la réaction aussi du chef de l'État, du ministère des Affaires étrangères, je pense qu'ils font très attention à ce qu'ils disent, effectivement, pour ne pas éveiller, pour ne pas susciter encore plus de risques, hein, finalement.
Chaque mot est pesé.
Exactement. Simplement, il y a le côté économique qu'il ne faut pas oublier, parce que l'Iran est un des deux, on va dire, pays en contrôle avec les Émirats du détroit d'Hormuz, par lequel 20% du pétrole mondial passe. Si l'Iran décidait d'entraver ou voire de fermer ce détroit unilatéralement, en termes économiques, ça pourrait poser de grands problèmes. On connaît les prix de l'essence, on connaît les prix des approvisionnements qui sont déjà assez hauts depuis un certain temps. Là, ça pourrait poser problème encore une fois.
Alors, l'Iran menace de fermer unilatéralement d'ailleurs le détroit d'Hormuz en représailles. Et ce matin, les bourses asiatiques ont bondi en ce qui concerne les prix des carburants et du pétrole en particulier. Voilà donc à suivre de près, évidemment. Avec aussi un bouleversement géopolitique, car la Chine a menacé d'intervenir si le détroit d'Hormuz venait à être fermé ou en tout cas entravé par l'Iran.
Oui, c'est assez rare que la Chine se positionne comme ça sur des affaires qui touchent pas, on va dire, à son espace direct de Chine, mer de Chine méridionale, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est assez nouveau en termes géopolitiques. Je pense que la Chine veut montrer qu'elle est la concurrente directe des États-Unis et que les États-Unis ne sont plus les seuls en capacité de faire, régner l'ordre au-delà de leurs frontières, même maritimes. Et donc, c'est assez intéressant à suivre ça.
Voilà, donc on va suivre ce dossier international qui a des répercussions aussi en France d'un point de vue politique. On a entendu beaucoup d'expressions de diverses sensibilités ce week-end, avec une gauche qui est quand même plutôt assez critique envers les frappes américaines et israéliennes, une droite qui pèse et un centre qui pèse ses mots, là aussi. Est-ce que ça risque d'avoir un autre dégât collatéral, c'est-à-dire encore une plus grande fracturation de la vie politique ici?
Je pense
si on peut aller déjà à une plus grande fracturation.
Je ne sais pas si on peut aller beaucoup plus loin en termes de fracture et de conflictualisation de notre vie politique française. Je pense qu'on est moins, c'est déjà moins sensible que ce qu'on avait pu voir au début de, enfin après le 7 octobre tout simplement. Donc non, je pense pas que ça soit à ce point une difficulté pour nous.
Voilà, mais ça risque quand même peut-être d'exacerber des tensions.
Oui, j'ai envie de dire, on les maintient hein, toujours hein, avec la situation politique, l'instabilité, aucune majorité. Enfin voilà, j'ai envie de dire, depuis la dissolution, c'est le quotidien.
Voilà, je croyais que vous alliez me dire rien de nouveau sous le soleil.
Voilà.
Et pourtant, il y a des propositions, cette proposition de proportionnelle, on en entend beaucoup parler, le gouvernement l'a évoqué, c'est dans les tuyaux comme l'on dit. Est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui d'instaurer la proportionnelle? Est-ce que ça va permettre finalement un nouvel équilibre politique?
Plus qu'une bonne chose, moi je suis convaincu que c'est nécessaire. D'ailleurs, le MoDem et François Bayrou, ça fait depuis la création du parti, et François Bayrou peut-être depuis le début de son combat politique qui défend la proportionnelle. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Évidemment, là, on a besoin de sortir de la logique des trois blocs. Déjà, ça, c'est quelque chose qui, je pense, avec le système majoritaire, on peut plus en sortir actuellement à cause des alliances électorales, tout simplement, parce qu'on sait que tout seul, on peut rien faire, donc on essaie de s'allier, etc. Mais aujourd'hui, il y a trois blocs, un bloc de gauche, un bloc centriste de droite et un bloc d'extrême droite, et c'est pas possible d'en sortir comme ça avec le système majoritaire. Et l'autre chose, c'est la conflictualisation du coup qui va avec, et voire la bordélisation, donc
une forme de blocage politique finalement.
Voilà.
Pour les réformes.
Et ça c'est un premier côté. De l'autre côté, il y a j'ai envie de dire la vie politique française telle qu'on la connaît, le grand problème de l'abstention. La crise de la représentativité, tout simplement, les gens ne se sentent plus représentés, ne comprennent pas ce qu'on fait à l'Assemblée. Évidemment, on est bloqué, donc à quoi ça sert qu'on élise ces gens? À quoi ça sert qu'on élise ces gens s'ils se retirent de la liste, enfin s'ils se retirent aussi de l'élection pour laisser la place à quelqu'un d'autre? C'est vrai que c'est pas très lisible.
Ça amène une forme de défiance finalement dans la vie politique et dans les représentants politiques.
Mais bien sûr, et c'est pour ça. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de reparler aux citoyens et de lui dire « Ok, votre voix va être écoutée, votre voix surtout va peser. » Avec le système majoritaire, c'est vrai qu'il y a une injustice fondamentale de déjà les plus petites représentations, les plus petites formations politiques ne sont pas représentées parce qu'il faut avoir un certain poids pour réussir à gagner l'élection, à part si on a des notables très bien ancrés localement. Mais c'est une injustice de base. Donc évidemment, pour que, typiquement, le parti breton, aujourd'hui, si on était à la proportionnelle, pourrait potentiellement être à l'Assemblée selon le seuil. Voilà. C'est des choses qu'il faut prendre en compte.
Justement, il y a aussi des détracteurs de cette proportionnelle qui disent que ça risque de faire arriver dans l'hémicycle plein de petits partis qui ne vont peut-être pas forcément s'entendre entre eux. Ça peut aussi faire monter le Rassemblement national, on entend ça. Là aussi, c'est le fantasme, c'est la réalité.
Je pense que c'est clair que le mode majoritaire a permis de bloquer un certain nombre d'arrivées du Rassemblement national à l'Assemblée. Mais au mouvement démocrate, c'est dans le nom, on est démocrate. Et l'idée, c'est que la représentation nationale représente les citoyens. Et si aujourd'hui, 36-40% de la population se retrouve dans les idées de Marine Le Pen et Jordan Bardella, même si c'est pour nous une grande tristesse et une grande défaite surtout, j'ai envie de dire, c'est le choix du peuple. Et si un jour ils se retrouvent à être en majorité et qu'ils commencent à mettre en place leurs idées, le peuple cette fois se rendra compte de la vraie nature de leurs idées et de leur mal fondé, tout simplement.
Voilà, parce que finalement ça va un petit peu à l'encontre de ce que vous défendez, la démocratie hein, évidemment. Justement, on joue pas un petit peu avec le feu, si vous me permettez?
Non, je pense pas qu'on joue avec le feu, parce que il y a quelque chose de aussi dont on n'a pas encore parlé qui est à prendre en compte. Aujourd'hui, avec le majoritaire, si on reprend la dissolution de 2024, si au second tour on avait par exemple un Horizon qui se retrouvait contre un Républicain, enfin contre un LR, ils allaient mettre en avant leurs oppositions. Ils allaient peut-être faire des attaques personnelles, puisque c'est un scrutin qui est personnel, sur une tête. Et tout ça, du coup, ça amène des déchirements. Et c'est pour ça que pendant des années, le bloc dit central, la majorité présidentielle, n'a pu faire aucun accord, quel qu'il soit, avec d'un côté le PS et de l'autre côté avec les Républicains, parce qu'il y avait ce truc de on fait des élections contre, on fait des programmes contre, et du coup on peut pas s'allier une fois qu'on est à l'hémicycle, parce qu'effectivement là ça serait une trahison des électeurs. Avec la proportionnelle, c'est tout l'inverse. L'idée, c'est qu'on présente une liste, déjà. Donc, on enlève l'aspect personnel. On présente une liste. Ensuite, on ne présente pas une liste contre. Parce qu'il y a toutes les formations qui sont représentées dans le scrutin. Donc, on va devoir montrer nos différences. On va devoir montrer nos apports personnels. Et une fois à l'Assemblée, on voit quels programmes sont compatibles, quelles mesures sont compatibles. Et on peut agir ensemble. Et ce n'est pas une trahison de l'électeur.
Ça permettrait d'éviter cette sclérose politique que l'on rencontre aujourd'hui avec ces fameux trois blocs, avec aussi une évolution des idées. Vous parliez tout à l'heure de la forte représentation du Rassemblement National dans la population française. Est-ce qu'il faut essayer de la comprendre, de l'expliquer, pour mieux la combattre finalement ?
Ah ben c'est nécessaire, parce que si on ne comprend pas d'où ça vient, ben on ne peut pas la combattre. À notre convention régionale du MoDem à Pontivy il y a un mois maintenant, on a passé une partie de la journée à justement essayer d'expliquer, à analyser la situation, en Bretagne particulièrement, mais il faut le faire à l'échelle nationale bien sûr, c'est pas toujours les mêmes enjeux. Entre le Nord et le Sud, par exemple, c'est pas du tout les mêmes types de votes. Il y a un vote protestataire, il y a plusieurs choses. Il y a de la désindustrialisation, il y a le côté plus sécurité chez certains. Voilà, il faut prendre en compte tous ces éléments-là. Je pense qu'il faut surtout comprendre qu'il n'y a pas un électeur du Rassemblement National. Ça, c'est clair. Il n'y a pas un électeur au profil, raciste, anti-système et tout ça. Non, c'est vraiment pas le cas.
C'est un vote de colère aussi, de protestation, de déception de la proposition, ou en tout cas de l'offre politique.
Je crois que ça fait partie des votes du Rassemblement National, c'est clair.
Et c'est là-dessus donc, que le centre peut ramener à lui peut-être des électeurs qui seraient tentés de dire « voilà, on renverse la table ».
Bah, c'est clairement notre ambition. Enfin, quand on veut redonner confiance en les politiques, quand on veut plus de transparence, quand on veut éviter le cumul dans le temps aussi, il y a quelque chose que le mouvement démocrate porte. Tout ça, le but, c'est de redonner confiance aux citoyens. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Je suis un fervent défenseur de l'éducation et notamment de l'éducation politique et citoyenne, tout simplement. Aujourd'hui, on n'éduque pas du tout assez nos enfants et nos jeunes sur notre système politique, les idées politiques, l'histoire de la démocratie, etc. Et ça, c'est un vrai problème.
Alors justement, l'éducation, on en parle beaucoup aujourd'hui, elle manque de moyens, c'est un peu comme la santé également. Il faut remettre l'éducation au cœur, déjà donné un début de réponse, mais au cœur de l'action politique, car on voit aujourd'hui une génération, ou en tout cas des générations qui sont un petit peu en déshérence. Alors au niveau politique, mais aussi il y a une grande colère, il y a aussi parfois de la violence, on l'a vu dans nos rues, là encore pour la fête de la musique, alors... Là, il y a différents facteurs qui interviennent, mais on a quand même l'impression qu'à chaque fête, que ce soit du côté du foot ou de la musique, il y a un moment où ça dégénère et où nos rues se transforment en champ de bataille.
Ouais, je pense déjà il faut quand même commencer par nuancer ça, parce qu'effectivement, on voit, ça avait commencé, je pense... On avait commencé à vraiment le constater avec les Black Blocs durant les Gilets jaunes. Et je pense qu'il faut toujours rappeler, et ça marche avec les émeutes, les difficultés dans les universitaires, par exemple, ce qui s'était passé à Rennes 2 ou quoi. Il faut toujours réussir à prendre de la hauteur et à se dire, OK, ce n'est qu'une petite partie, une partie minime des personnes qui fait ça, tout simplement. Et c'est des gens qui profitent de ces événements. C'est des gens qui ne sont pas là pour fêter, mais c'est des gens qui sont là pour détruire et pour faire le bordel, en fait.
On a quand même eu des appels à la violence sur les réseaux sociaux. Ces jeunes femmes qui ont été piquées avec des seringues un petit peu partout en France. C'est assez terrifiant. Il y a eu ces appels sur les réseaux sociaux. Là aussi, il va falloir être plus coercitif. Vaste question.
Vaste question, on le voit, c'est l'ambition de Gabriel Attal, hein, de revoir tout le côté de la justice des mineurs. Il faut faire attention à ce que tout ça soit bien constitutionnel. On l'a vu, beaucoup des articles de son texte ont été retoqués par le Conseil constitutionnel, et à raison. Il faut être très sage, je pense, parce que on ne veut pas exacerber, j'ai envie de dire, les tensions qui existent déjà. Et on revient à la question de l'éducation. Effectivement, je pense qu'il y a toute une relation avec l'État, avec le système scolaire, avec la police, qui a refondé tout simplement, parce que aujourd'hui il y a à l'image de, j'ai envie de dire, de notre sphère politique, des tensions qui sont très grandes.
C'est assez violent quand même dans les rues. On a vu des images passer qui étaient quand même assez violentes, de bagarres, de voilà. Alors avec aussi une composante ethnique. Là aussi, il ne s'agit pas de montrer du doigt qui que ce soit, mais là aussi, il faut arriver à discuter avec les communautés. On a l'impression que la France se communautarise et que personne ne peut plus se parler finalement.
Non, bien sûr, il y a un sentiment d'abandon d'un certain nombre de personnes, notamment dans certains quartiers populaires ou des quartiers prioritaires de la ville. On le voit à Rennes, on le voit dans n'importe quelle grande ville. J'ai envie de dire, parce qu'il y a un vrai abandon d'un côté, et de l'autre, il y a vraiment des personnes qui sont là pour nuire. Et voilà, il faut traiter la question, mais il faut surtout pas la lâcher, et surtout pas la lâcher aux mains de l'extrême droite, parce que là, c'est là qu'on perd le combat en tant que, moi je le dis en tant que centriste, il faut surtout pas lâcher les questions de sécurité, il faut pas les mettre non plus en. Faut pas les élever sur un piédestal parce qu'on voudrait récupérer les plates-bandes du Rassemblement National, mais il faut les traiter, parce qu'il y a un problème objectif. Objectivement, il y a une situation, alors on va pas fermer les yeux.
Ne pas fermer les yeux et prendre la mesure finalement de la situation. Vous avez parlé de Rennes, ça va nous amener, vous me voyez venir, j'en suis certain, aux élections municipales, ça va venir très vite, 2026, j'allais presque dire c'est demain. Il y a beaucoup de choses à Rennes, ça nous amène directement d'ailleurs à la question de sécurité. Souvent, Rennes est pointée du doigt, il y a ces problèmes de trafic de drogue qui sont très prégnants à Rennes. On entend parler de fusillades, il y a un climat assez difficile à Rennes. Comment ramener la sérénité là encore ?
On est en train de créer des projets, tout simplement, à Rennes et dans toute la Bretagne. Le MoDem a désigné des chefs de file, notamment Marie-Pierre Védren, notre députée européenne et conseillère régionale, pour coordonner notre action, nos alliances, nos partenariats à l'échelle régionale. On a aussi désigné, dans les semaines précédentes, une première vague de chefs de file au niveau des villes. Mmh. Donc à Rennes, on a Nicolas Boucher, qui est conseiller municipal depuis 6 ans, donc qui porte déjà nos intérêts là-bas depuis 6 ans, donc c'est tout à fait normal de ce côté-là. Aujourd'hui, on discute avec différentes formations, on négocie, on consulte. L'idée, ça va être effectivement de rassembler, mais de pas faire un rassemblement qui dépasse trop de frontières au point qu'on perde nos idées centristes et modérées.
On peut imaginer un rassemblement qui irait un petit peu plus vers la droite, j'entends la droite républicaine.
Aujourd'hui, après consultation des adhérents MoDem Rennais, il a été décidé qu'on participerait à une équipe qui irait des sociodémocrates de Cazeneuve, de Rebsamen, et jusqu'à Horizon, en passant par Renaissance, UDI, tous les partis centristes, partis bretons, voilà.
Mais pas forcément LR.
Non, aujourd'hui avec Thomas Rousseau qui représente les LR, c'est pas possible pour nous tout simplement parce que quand on flirte et quand on fricote avec l'extrême droite et avec le Yarl et tout ce genre d'influenceurs, c'est notre ligne rouge tout simplement.
Voilà, donc la ligne rouge est fixée. Est-ce que vous pouvez demain imaginer une alternance à Rennes, une alternance centriste à Rennes ?
C'est plus qu'on l'imagine, on la prépare. On la prépare, on y croit, et si on n'y croyait pas, je pense que on ferait pas grand chose pour. Aujourd'hui, les gens en ont marre de l'équipe de Nathalie Appéré. Au-delà de Nathalie Appéré, ça va faire 50 ans en 2027 que la ville est aux mains du PS.
Edmond Hervé, 1977,
c'était quand même,
avec Hervé, effectivement.
C'était quand même un autre combat, mais c'était différent de l'équipe actuelle. Beaucoup de sociodémocrates, donc de gens de gauche modérée, de centre-gauche, en ont vraiment marre de l'équipe de la majorité actuelle, se sentent déçus et même trahis, en fait, tout simplement. Mmh. Parce que l'équipe actuelle s'est rapprochée des dérives LFistes, et puis tout une partie des écolos et même des socialistes, tout simplement se rapprochent tout à fait des idées de la France insoumise. Et aujourd'hui, la méthode n'est plus du tout la bonne, quoi. Il y a deux choses, il y a deux logiques desquelles il faut sortir à Rennes. Il y a une logique j'ai envie de dire, facilité institutionnelle, dans le sens où la majorité est tellement installée qu'ils se disent que n'importe quelle critique est une menace et du coup, ils vont essayer d'écraser l'opposition. Mais de l'autre côté, ils jouent avec la consultation citoyenne en faisant des mises en scène. Les budgets participatifs, plus personne y participe. Enfin voilà, on fait des consultations, mais au final, tout est déjà décidé. Et de l'autre côté, eh ben, il faut sortir de la logique idéologique. Mmh. Au bout d'un moment, il faut être un peu pragmatique. Je crois vraiment qu'une partie de l'équipe de Nathalie Appéré est simplement hors sol aujourd'hui, des problèmes des Rennais. Quand on nous dit, après la fusillade à Villejean avec les élus Charles Compagnon et Nicolas Boucher, que ah, il faut commencer à prendre conscience, il faut une prise de conscience sur le narcotrafic et la violence à Rennes. Ah bon, seulement maintenant, ça paraît un petit peu tardif. Donc au bout d'un moment, il faut aller sur le terrain, et si Madame Appéré allait sur le terrain, elle aurait constaté depuis un certain nombre d'années que les choses évoluent.
Alors les choses évoluent, l'alternance est possible. Il y a aussi cette annonce de LFI qui veut présenter, alors pour l'instant il y a deux candidats qui sont possibles, ou un binôme, je ne sais pas comment on peut dire, mais il y a une forme aussi de division de la gauche, on le voit bien avec le Parti Socialiste d'un côté et LFI de l'autre. Est-ce que ça peut profiter finalement, cette division de la gauche, au Parti Centriste?
Oui, déjà, vous dites le Parti Socialiste. Aujourd'hui, à Rennes, je pense qu'il y a les partis socialistes.
Alors oui, les partis socialistes.
Donc oui, effectivement, il y a LFI, il y a les écolos qui semblent être proches à Rennes, comme à Nantes d'ailleurs. Une partie des socialistes qui sont dans cette lignée-là, une autre partie non. Évidemment que j'ai envie de dire que ça peut nous profiter. Après, il y a les enjeux du premier tour et du second tour. Moi, je vous disais, notre ligne rouge au premier tour, effectivement, Thomas Rousseau, pour nous, c'est pas possible. Si un certain nombre des LR voulaient nous rejoindre au second tour, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais voilà, faudrait que ce soit dans notre lignée d'idées, tout simplement, et de valeurs.
Il y a une ligne rouge, mais il y a possibilité de discussion.
Il y a une possibilité de discussion avec ceux qui, j'ai envie de dire, sont compatibles avec nos idées. Mmh. Tous les LR de Rennes ne sont pas dans la lignée de Thomas Rousseau, c'est ce que j'essaie de dire.
Mmh. L'alternance à Rennes, ça pourrait se traduire comment? Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais je ne vais pas vous demander de donner tout le programme, mais on peut imaginer au niveau des mobilités, de l'environnement, de l'urbanisme, mieux vivre à Rennes, finalement, des mesures assez rapides et assez importantes.
Je pense que plus que, évidemment, le programme est en train d'être construit, plus que le programme, c'est la méthode qui devra changer. Comme je vous l'ai dit, c'est aller sur le terrain, être pragmatique et demander aux gens quels sont vos problèmes, quelles sont vos demandes. Et là, on pourra avancer, tout simplement. Il y a des enjeux, par exemple, au niveau économique pour les commerçants. Bon, il y a eu le grand déboire avec le parking Vilaine. Encore une fois, pour moi, c'était une question de méthode avant tout. Mmh. On a fait un collectif de 30 personnes de la métropole de Rennes, pas de la ville de Rennes, de la métropole, 30 personnes qui sont décidées sur le sort du parking, alors qu'il y a 1000 commerçants, 500 citoyens, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont signé une pétition pour demander « non, on en a besoin pour la vie ». Bon, est-ce que ce parking devrait rester? Moi, je suis pas arrêté là-dessus. Effectivement, il y a plusieurs enjeux qui rentrent en compte en termes de mobilité, d'écologie, de budget. Mmh. Mais c'est une question de méthode avant tout.
Voilà, donc un changement de méthode, assurément, pour pouvoir mettre en place cette alternance à Rennes. Un dernier mot, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, dans des villes comme Rennes, les citoyens, vous avez déjà commencé un petit peu à répondre, mais les citoyens sont mis à l'écart des décisions, même s'il y a des consultations citoyennes, populaires. Est-ce qu'il faut peut-être avoir des citoyens un jour représentants dans les conseils municipaux?
Très clairement, on porte ça, notamment avec Nicolas Boucher, que les conseils de quartier soient beaucoup plus développés. Mmh. C'est-à-dire qu'il y aurait une division beaucoup plus nombreuse des quartiers pour que ce soit vraiment, disons, à l'échelle où des citoyens pourraient s'exprimer auprès de leurs élus de quartier, et qui ferait remonter effectivement au niveau municipal tout ça.
Voilà, donc on va suivre évidemment ici les futures élections à Rennes. J'imagine, et là en deux secondes, que vous êtes déjà dans les starting blocks, comme l'on dit.
Ah oui, on prépare et on est prêt.
Nathanaël Schmitt, président des Jeunes Démocrates de Bretagne, était notre invité politique dans la matinale ce matin. Merci d'être venu à notre invitation. Je vous souhaite une très belle journée.
Très bonne journée, merci.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.